Moins il y a de personnes sachant la vérité, mieux ça vaudra. Avec la Stasi, on ne plaisante pas.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Le cas de la RDA, comment vivre dans un état totalitaire? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Emmanuel Droit. Aujourd'hui, troisième épisode, avec la Stasi, une société sous haute surveillance.
Face à un gouvernement un peu sourd et guère pressé de démanteler la Stasi, la foule est passée de la parole à l'acte. Des dizaines de milliers de manifestants ont convergé ce soir vers l'immeuble berlinois de la police secrète. Le bâtiment a alors été méticuleusement mis à sac. Machines à écrire, meubles, dossiers, rien n'a résisté à la vindicte populaire. Des centaines de fiches compulsant des années de surveillance de toute une population se sont envolées.
C'était le 18 janvier 1990, 2 mois seulement après la chute du mur de Berlin, des centaines de citoyens est-allemands s'en sont pris à la Stasi, la police secrète, qui depuis 40 ans les surveille, les manipule et fait tenir le régime par la peur. Dès 1946, l'armée d'occupation soviétique avait créé une première police politique, nommée K5, organisée sur le modèle de leur KGB. L'objectif, faire la chasse aux nazis d'abord, mais aussi déjà à ce qu'on appelle les ennemis de classe, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans la ligne du parti. En 1950, le K5 devient le ministère pour la sécurité d'État, plus connu sous le nom de Stasi. Un des personnages clés de la Stasi dès ses débuts est Erich Milke, un communiste pur et dur qui la dirigera de 1957 jusqu'à la chute du mur en 1989. L'action de la Stasi est d'abord avant tout répressive. Toute personne soupçonnée de déviance politique peut être arrêtée, interrogée, voire torturée et emprisonnée.
Asseyez-vous. Main sous les cuisses, paume vers le bas. Qu'avez-vous à nous dire ?
Je n'ai rien fait. Je ne sais rien.
Vous n'avez rien fait et vous ne savez rien. Alors vous pensez que nous enfermons de braves citoyens irréprochables sur un mouvement d'humeur ?
Non, je...
Si vous croyez notre État humaniste capable d'agir de cette façon, nous aurions déjà une raison de vous arrêter, même s'il n'y avait rien.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Mais à partir de 1956 et sous l'impulsion d'Erich Milke, la Stasi se transforme à un rythme effréné en un énorme appareil bureaucratique, un véritable colosse sécuritaire. Et son mode d'action change. Si la violence d'État n'a pas disparu, la prévention et la surveillance l'emportent désormais sur la répression. L'objectif est d'identifier toute forme de subversion, de comportement nuisible ou déviant dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée. La surveillance de la Stasi s'insinue dans tous les aspects de la vie quotidienne. Le but, collecter des données intimes sur les citoyens et identifier ceux qu'elle considère comme une menace pour le régime. Il y a les agents de la Stasi, très nombreux, mais aussi les IM, les inofficiels Mitarbeiter, c'est-à-dire des collaborateurs non officiels, des indiques, en quelque sorte, chargés d'espionner leurs voisins, leurs proches, leurs collègues, voire leurs familles. Ils s'insinuent dans chaque bureau, dans chaque association culturelle ou sportive, et dans chaque immeuble, puis ils en rendent compte à la Stasi. Si dans les faits, la majorité des Allemands de l'Est ont échappé à la surveillance de la Stasi, jusqu'à la fin de la RDA, toute la population a vécu dans la crainte d'une dénonciation ou d'une arrestation. Voici le cas par exemple de Hans Schulz, un citoyen de la RDA qui a été enfermé pendant 13 mois dans une prison de la Stasi.
3 ans avant la chute du mur de Berlin, il est arrêté par la Stasi alors qu'il essayait de fuir vers l'ouest. Il est accusé d'espionnage.
Il y avait sûrement des caméras cachées dans le salon et aussi dans ma chambre.
Cet homme d'affaires s'est fait piéger au sein même de son foyer. Des années plus tard, il découvre dans des archives de la Stasi celle qu'il a dénoncée, sa propre femme.
Emmanuel Droit, vous écrivez dans un de vos livres que la RDA, le plus petit pays du bloc soviétique avec l'Albanie, a bâti le plus grand appareil de sécurité de tous les temps. C'était vraiment une grosse machine.
Oui, c'était vraiment une grosse machine et vous imaginez le degré de méfiance que pouvait avoir le régime envers sa propre population, parce que non seulement ils l'ont enfermé derrière le mur de Berlin et le rideau de fer de manière définitive à partir du 13 août 1961, mais en plus ils ont construit un appareil sécuritaire qui, secteur par secteur, segment par segment, au sein de la société, jusque au niveau de du noyau familial, la Stasi a réussi à pénétrer en fait l'ensemble de la société est-allemande avec cette capacité à autodiscipliner les Allemands de l'Est. C'est-à-dire qu'il y avait une telle peur et une telle méfiance d'être sous surveillance que dans les relations quotidiennes qu'on pouvait avoir avec ses collègues de travail, on ne savait pas en fait, ou on pouvait imaginer qu'un tel était IM, mais on ne le savait pas. Et donc l'enjeu et la capacité de la Stasi à contrôler la population repose sur sa capacité à atomiser la société, à la fragmenter et à distiller le poison de la méfiance.
La philosophie de ce régime, c'est « nous savons ce qui est bon pour vous ». Nous le savons mieux que vous.
Au nom du bien, les employés de la Stasi se considéraient comme des, ça va vous choquer peut-être, mais comme des travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'ils considéraient d'un point de vue paternaliste qu'ils avaient raison et qu'il fallait identifier et étouffer dans l'œuf toute forme de déviance par rapport au modèle de l'homme nouveau ou par rapport au modèle du bon citoyen socialiste. Et en étouffant dans l'œuf toute forme de déviance, eh bien, on stabilisait le régime et on empêchait évidemment toute tentative de révolte ou d'insurrection.
Oui, vous l'avez dit, l'homme nouveau, c'était le projet initial donc, de ce régime.
Oui, c'était
un homme idéal qui n'existe pas, finalement.
Exactement, c'était le projet prométhéen de créer la nouvelle personnalité socialiste, une personnalité qui était à la fois dévouée pour le collectif, mais qui s'inscrivait dans la tradition de la Bildung allemande, donc de la philosophie des Lumières, puisque c'était un régime qui se prétendait être humaniste et progressiste, on l'a entendu dans votre extrait, mais en fait où l'individu était soumis au collectif.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'agents qui travaillaient à la Stasi en RDA ?
Alors, on estime aujourd'hui à 170-180 000 personnes qui ont travaillé comme collaborateurs officieux. Si le RDA s'était pas effondré en 89, évidemment, le nombre aurait encore augmenté, puisque Erich Milke avait ce projet de descendre l'âge de recrutement des collaborateurs officieux. Officiellement, on pouvait être IM à partir de 18 ans, mais Milke considérait que être collaborateur officieux, c'était un moyen de préparer les futurs cadres du régime socialiste, et donc il voulait avancer l'âge à 16 ans. Et moi, j'ai trouvé dans les archives des cas de lycéennes qui, à partir de 16 ans, surveillent leurs camarades et surveillent leurs enseignants, ce qui fournit en fait toute une série d'informations qui n'ont rien à voir avec la surveillance policière ou l'opposition. Donc c'est plutôt des données sociales.
Oui, comment sont-ils recrutés, ces IM ? C'est quand même d'une grande perversité, c'est-à-dire qu'on pousse des citoyens à la délation sur des personnes que parfois ils connaissent, donc très proches, en échange de quoi ? C'est quoi ? C'est du chantage ? C'est de la promotion sociale ?
C'est un chantage affectif ? Le profil psychologique est bien étudié avant, c'est-à-dire que les officiers dans les cellules de base de la Stasi ciblent un certain nombre de profils et ensuite exercent soit des pressions, soit des chantages, soit font miroiter des avantages matériels. Il y a des personnes qui aiment bien jouer aux espions et qui, par aventurisme, vont signer un contrat avec la Stasi. On peut aussi refuser de collaborer avec la Stasi, sachant que la tendance à l'expansion dans les années 70 et 80 va aller crescendo.
On a dit parfois que la RDA était l'état totalitaire qui ressemblait le plus à celui décrit par George Orwell dans son roman 1984, avec évidemment la Stasi dans le rôle de Big Brother. Qu'en pensez-vous, Emmanuel Droit ?
Quand on pense à la définition du totalitarisme, et là on peut faire référence à Hannah Arendt, le but d'un régime totalitaire, c'est pas de supprimer les opposants politiques, c'est de contrôler les individus et de les isoler les uns par rapport aux autres. Et en ce sens, on est vraiment pleinement dans un régime totalitaire.
Oui, il y a une déshumanisation des rapports humains, même l'amitié, l'amour sont des sentiments, de la confiance qui ne valent rien finalement face à la toute-puissance du parti et de l'État.
Exactement, la confiance c'est la base de toute société ouverte et démocratique. Et quand vous brisez ces liens de confiance et quand vous distillez le poison de la méfiance, eh bien en fait, vous atomisez les relations sociales, vous les rendez purement formelles. Et c'est vrai que les relations d'amitié, notamment d'amitié au travail, pouvaient être fortement limitées par cette culture de la méfiance et cette culture du soupçon permanent. Et donc, il y a quand même les Allemands de l'Est avaient cette capacité à trouver des formes de repli sur la cellule familiale, mais vous l'avez montré. Même au sein de cellules familiales, on pouvait s'espionner entre au sein d'un couple. Donc c'est vraiment le stade le plus avancé de la déshumanisation.
Merci Emmanuel Droit. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le pouvoir est-allemand s'exerce auprès de la jeunesse dans son but de créer un homme nouveau.